VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h en temps universel, le fils du président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, a démenti vouloir succéder à son père à la tête de l'Ouganda, Muhoozi Kainerugaba, qui s'exprimait donc hier après avoir été promu au rang de général de brigade, du rang de général de brigade à celui de général de division en charge du commandement des forces spéciales, s'est déclaré content d'être dans l'armée, selon le quotidien gouvernemental New Vision. Et toujours en Ouganda, la justice doit rendre son jugement ce jeudi dans le procès de 13 auteurs présumés du double attentat qui avait fait 76 morts le 11 juillet 2010 à Kampala, une attaque revendiquée par les islamistes somaliens Shabab affiliés à Al-Qaïda. Les accusés ont plaidé non coupables et encourent la peine de mort. La décision doit être lue par le juge Alphonse Ouini Dolo devant la haute cour de Kampala. En République démocratique du Congo, la marche de l'opposition a été autorisée à Kinshasa, mais toutes les manifestations d'opposition ont été interdites à Lubumbashi, dans le sud-est, la deuxième ville du pays, fief de l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, ayant quitté le pays vendredi après des ennuis judiciaires. Jean-Marie Ngelei Foto, membre de la coalition de l'opposition, explique les raisons de la marche.
L'opposition a décidé d'organiser une marche de colère et de compassion. Ça veut signifier, un, que la constitution de la République soit respectée en inscrivant les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire des élections présidentielles et législatives. Parce que c'est par ces élections-là que nous pourrons assurer l'alternance au sommet de l'État.
Jean-Marie Ngelei Foto. Au Burkina Faso, le parti du président Roch Marc Christian Kabore a remporté les élections municipales de dimanche. Selon des résultats provisoires globaux publiés hier soir, les résultats définitifs, eux, seront prononcés par le Conseil d'État après la période de contentieux ouverte pour une semaine. Aminata Kassier, la directrice de l'ONG américaine NDI, elle tire les leçons de ces municipales.
Je crois que tous les acteurs vont devoir se poser la question de savoir comment nous sommes passés d'un taux aussi important à la présidentielle à un taux relativement bas. C'est une question qui interpelle tous les acteurs et qui devront travailler à faire en sorte que le citoyen, quelle que soit l'élection, se sente concerné et puisse exprimer son vote.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé hier les dernières sanctions pesant sur le Libéria 13 ans après la fin de la guerre civile dans ce pays. Jacques Aristide.
Le régime de sanctions visait notamment à lutter contre le trafic de ressources naturelles ou geler les avoirs de certains individus. Également, dans l'arsenal, un embargo sur les armes destinées aux acteurs non étatiques et l'obligation pour le gouvernement du Libéria de notifier à l'avance ses achats d'armement. La résolution mettant fin aux ultimes sanctions a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité qui saluent les progrès constants du gouvernement libérien dans la reconstruction du pays, mais l'invite tout de même à adopter rapidement une législation sur les armes et à mieux contrôler ses frontières. Les États-Unis, qui avaient mis au point cette résolution, se sont félicités de la levée des sanctions. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, trouve que cette décision est une preuve supplémentaire des progrès importants accomplis par le Libéria et la sous-région pour maintenir la stabilité.
Place maintenant au dossier de ce journal. L'électrification de l'Afrique est au centre des 51e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement ouverte à Lusaka en Zambie. Les discussions sur le thème énergie et changement climatique sont axées sur les moyens d'accélérer les investissements dans le domaine de l'électricité sur les 10 prochaines années, étant donné que 600 millions d'Africains à l'heure actuelle n'y ont pas accès. Pour en parler, Timothée Donangmaya joint à Bamako l'ingénieur énergéticien Mamadou Kanta de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale.
L'action doit être orientée vers les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, je ne dirais pas d'utiliser des panneaux pour seulement la lumière, mais pour un vrai développement. Parce que quand on parle de l'électricité, nous pouvons le considérer comme l'élément moteur de tout développement. Donc en mettant l'accent sur les photovoltaïques, qui aujourd'hui, en tout cas, cher en matière d'approvisionnement, donc on peut également axer en tout cas nos moyens sur tout ce qui est énergie photovoltaïque, en tout cas pour une vraie électrification de l'Afrique.
Quelle est l'incidence du manque d'électricité aujourd'hui sur le développement des pays africains?
L'incidence l'Occident, c'est pratiquement dans tous les domaines. Le retard de l'Afrique, ça s'explique exactement par son niveau d'électrification. Quand on compare l'Afrique, c'est comme l'équivalent de la capacité de production, en tout cas de toute l'Afrique, ne dépasse pas un pays comme la Belgique. Hein. Les chiffres nous édifient, c'est là. Quand on regarde la capacité totale de l'Afrique, c'est autour de 147 gigas. Et c'est à peu près la même capacité qui se trouve en Belgique. Donc imaginez tout un continent qui, du point de vue électricité, se compare à un petit pays, si je dis petit pays par la taille, la Belgique. Donc voilà, donc c'est vraiment un retard, quoi.
Certains pays africains misent sur le nucléaire, on l'a vu, avec le Soudan, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui ont signé des accords avec la Chine dans ce sens. Est-ce que c'est la voie à suivre pour l'électrification rapide de l'Afrique?
Oui, mais ne voulons pas la face. En réalité, la vraie électrification, au-delà des photovoltaïques, là, on peut faire grandes choses, mais pour réellement avoir une grande capacité, il faut tourner vers l'énergie nucléaire. Je crois qu'en Afrique du Sud, il y a une centrale nucléaire qui permet en tout cas à ces pays de faire de grandes choses. Si peut-être dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, toute la zone de l'Afrique de l'Ouest arrive à avoir une centrale sur les côtes vers le Sénégal au niveau de la mer, donc ça peut en tout cas servir toute la zone. Et même chose également, comme vous l'avez si bien dit, vers Kenya, Éthiopie, voilà. Donc moi, je pense que c'est vers ça qu'on peut réellement avoir de l'énergie abordable et qui nous permet également de tirer profit. Sinon, installer des petits groupes par-ci, par-là, énergétivores, donc ça n'incite vraiment pas à l'industrialisation, quoi. Ça n'incite pas à l'industrialisation. Le coût d'électricité en Afrique est excessivement cher.
Mamadou Kanta de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale, joint à Bamako.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les dirigeants des grands pays industrialisés font leur arrivée au Japon de manière dispersée avant un sommet du G7, un sommet centré sur les défis de la croissance mondiale, du terrorisme et des migrations qui débute aujourd'hui. Mélisse Hegel.
Barack Obama est arrivé mercredi soir. Il fera une visite à Hiroshima après le sommet. Une première pour un président américain dans cette ville bombardée à l'arme atomique par les États-Unis en 1945. Monsieur Obama aura un entretien avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Ce dernier a également rencontré mercredi le premier ministre britannique David Cameron, dont le pays suscite les inquiétudes du G7 à l'approche d'un référendum le 23 juin sur une possible sortie de l'Union européenne. La faiblesse de la croissance mondiale occupera une place de choix pendant ce sommet du G7, qui doit également adopter un plan d'action contre le financement du terrorisme. La délégation française a fait ajouter une réunion prévue jeudi sur la préservation du patrimoine culturel face aux agressions terroristes. Après les destructions des trésors de Tombouctou, du musée de Mossoul, des vestiges de la cité de Nimroud et des temples de Palmyre. Enfin, le thème de la migration et des réfugiés a été mis à l'ordre du jour à l'initiative de l'Allemagne.
Le G7 doit donc aussi adopter une position claire et dure sur toutes les différents territoriaux, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou des mers de Chine méridionale et orientale, a déclaré aujourd'hui au Japon le président du Conseil européen Donald Tusk. L'Allemagne a estimé, au contraire, par la voix de son chef de la diplomatie, que la reconduction des sanctions de l'Union européenne contre la Russie sera plus difficile cette année en raison d'une résistance accrue de certains pays membres. Et puis, le premier ministre irakien Haider al-Abadi a exhorté aujourd'hui les citoyens ayant prévu de manifester vendredi à Bagdad pour un nouveau gouvernement de renoncer alors que les forces de sécurité bataillent pour reprendre aux djihadistes la ville de Fallujah. Les forces irakiennes ont lancé depuis lundi une offensive pour reprendre Fallujah, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Bagdad et contrôlée par le groupe ultra-radical État islamique depuis janvier 2014. Depuis des semaines, des Irakiens, pour la plupart sympathisants du chef chiite Muqtada Assad, manifestent tous les vendredis afin d'obtenir la formation d'un gouvernement de technocrates qui pourrait lutter plus efficacement contre la corruption. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
«
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.